France Info. France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Jeanne Calimi est là, Benjamin Morel, politologue, Elisabeth Pinault pour Reuters et Sylvain Kahn, enseignant-chercheur au Centre d'Histoire à Sciences Po et spécialiste des questions européennes, qui est notre expert sur cette grande page européenne. Alors on vote donc dans un mois pile, on est le 9 mai, c'est le 9 juin, on va rappeler qu'il n'y a qu'un tour pour les européennes, c'est important. Et les derniers sondages donnent la liste Bardella à 31 ou 32% et la majorité, la liste est entre 15 et 17%. Talonné, selon certains instituts, par la liste PS Place Publique de Raphaël Glucksmann. Talonné, alors il y a un 15-14, il y a un 17-13, mais tout ça, en clair, est assez net, sur, en tout cas sur le premier et le deuxième. On parlera de tout ça. En France, les membres du gouvernement étaient priés de se montrer en ce 9 mai, qui est aussi la journée donc de l'Europe. Gabriel Attal, qui était dans le Morbihan, dans une crêperie, la Gavotte, à Rouen, échange avec une quinzaine de Français. On va l'entendre, il accuse une nouvelle fois le RN de vouloir sortir de l'Union européenne.
Mais on sait que le débat de cette élection, c'est dedans ou dehors. Est-ce qu'on veut continuer à rester dans l'Union européenne, bénéficier de tout ce que l'Europe nous apporte, ou est-ce qu'on veut sortir de l'Union européenne? Parce que malheureusement, le programme du Rassemblement national, quand vous le lisez ligne à ligne, c'est l'organisation méthodique de la sortie de la France de l'Union européenne. Ils disent qu'ils veulent arrêter de respecter les règles européennes. Ils disent qu'ils veulent qu'on arrête de financer l'Union européenne. Est-ce que vous connaissez une association où vous ne respectez pas les règles? Vous payez plus la cotisation, mais vous restez membre. Ça n'existe pas. Et donc, le programme du Rassemblement national, c'est à la fin la sortie de la France de l'Union européenne, ce qui serait terrible pour les Français, mais aussi terrible pour l'Europe.
Je vais poser la même question à Benjamin Morel et à Sylvain Kahn. C'est ça le débat, dedans ou dehors, Benjamin Morel?
Non, pas vraiment. Alors, il y a un débat aujourd'hui sur quel est le degré de participation de la France au sein de l'Union européenne, notamment à travers des stratégies de désobéissance, d'opt-out, mais le RN n'est pas le seul parti à porter aujourd'hui ce type de stratégie. Donc on voit qu'aujourd'hui, la ligne, on dit beaucoup, aucun grand parti aujourd'hui ne prône le Frexit, c'est vrai. Mais la plupart des partis
plus, en tout
prônent
cas.
Malgré tout, plus officiellement,
les patriotes.
Mais oui, sauf des... Philippot, l'UPR, etc., des petits partis souverainistes, mais parmi les grands partis, plus personne ne le prône. Néanmoins, eh bien, vous avez des gradations d'euroscepticisme. LR, par exemple, est beaucoup plus eurosceptique qu'il ne pouvait l'être naguère. Idem pour d'autres partis de gauche. Donc on voit que l'évolution, entre guillemets, du paysage politique est beaucoup plus complexe, mais il faut comprendre la stratégie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème de Valérie Ayé? Le problème de Valérie Ayé, c'est que les électeurs d'Emmanuel Macron en 2022 ne sont pas là. À peu près 1 sur 2 veut se déplacer. C'est pas normal. C'est des électeurs centristes. Centre-ville, plutôt âgés, etc. Ces électeurs sont là, normalement, aux élections. Là, une grande partie ne veut pas se déplacer. Donc, le problème, c'est comment est-ce qu'on pourrait les faire venir aux urnes? Et donc, il faut dramatiser l'enjeu. Il faut donner le sentiment que c'est pas seulement des élections européennes, un tour à la proportionnelle, etc., et au final, des évolutions au sein du Parlement européen qui seront importantes, mais qui ne conduiront probablement pas à des grands chamboulements, mais qu'au contraire, c'est un choix extrêmement important pour ou contre l'Europe. C'est un choix important pour ou contre une politique pro-Poutine, etc. Cette exacerbation des tensions a pour but une mobilisation électorale. Le problème, c'est que depuis un mois et demi, cette stratégie-là est appuyée. Depuis un mois et demi, pour l'instant, elle ne marche pas.
On va échanger sur cette stratégie, effectivement, et cette dramatisation. Je vais poser la même question à Sylvain Kahn. Au niveau européen, si on dézoome, est-ce que ça existe encore dans le débat? C'est vrai qu'en France, le débat n'était plus là, dedans ou dehors. Est-ce que c'est le débat au niveau européen?
Pas vraiment. C'est vraiment quelque chose qui a considérablement changé avec le Brexit. C'est-à-dire que les partis qui prenaient la sortie soit de l'Europe, soit de l'euro, prenons l'exemple de Meloni, par exemple, et de son parti Fratelli d'Italia. Prenons l'exemple de la Ligue, qui est aussi un parti italien. Tous ces partis-là, depuis le Brexit, en fait, ils ont cessé, en effet, de mettre dans leur programme soit la sortie de l'euro, soit la sortie de l'Europe. Finalement, c'est quand même mieux de rester, mais on va changer un certain nombre de choses de l'intérieur. C'est d'ailleurs exactement ce que dit le Front National. C'est-à-dire que même en France, c'est quand même très très difficile de trouver des déclarations publiques, en tous les cas, quand on prend tous les débats qui ont lieu quand même depuis un mois maintenant sur à peu près tous les médias, ou même quand on prend les grands entretiens qui sont réalisés avec toutes les têtes de liste le vendredi matin, c'est assez difficile de prendre tel ou tel candidat en situation de dire qu'il veut détricoter l'Union européenne de l'intérieur. Voilà. Donc aujourd'hui, on est plutôt, me semble-t-il, à l'échelle de l'Europe, dans des discours en tous les cas. Hein. Et ce que dit Gabriel Attal, c'est que lui, il suppose que derrière les discours, il y a autre chose. Et dans les discours qui sont affichés, on est plutôt entre ceux qui disent que l'Europe est vraiment la solution, et ceux qui disent qu'elle est en partie la solution et en partie le problème, et ceux qui disent, mais ils sont devenus très minoritaires, qu'elle n'est que le problème. Mmh. Et quand on regarde d'ailleurs, je pense à la dernière grande enquête qui a été faite par la Fondation Jean Jaurès, Ipsos, l'Institut Montaigne et Le Monde, si je ne m'abuse, on voit bien que la sortie de l'Europe ou la sortie de l'euro est devenue vraiment une motivation extrêmement minoritaire, quelles que soient les préférences de vote. Voilà. Et à l'échelle de l'Europe, aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe partout. Donc, c'est plutôt l'idée que certains partis qu'on va appeler eurosceptiques et qu'on ne va plus qualifier d'europhobes, au sens où europhobe voulait dire sortie de l'Europe, c'est plutôt que certains partis disent soit il faut pas trop faire de choses à l'échelle européenne, il faut quand même laisser au gouvernement une certaine marge de manœuvre, soit il faut s'emparer de l'échelle européenne pour faire des politiques que traditionnellement on qualifie de radicales ou d'extrême droite, notamment sur l'immigration.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le RN lui-même, dramatisation pour dramatisation, à un mois du scrutin, forcément, les mots sont de plus en plus surlignés. On va écouter, ça date d'il y a deux jours, mais Jordan Bardella à Saint-Avold, en Moselle, qui accuse le gouvernement, alors là où le Gabriel Attal accuse le RN de vouloir éteindre l'Europe, en gros, lui, il accuse le gouvernement de vouloir éteindre la voix de la France.
En éteignant la voix de la France, en déléguant à Bruxelles des compétences nationales, Emmanuel Macron cherche en fait, et sans le dire clairement, à liquider la souveraineté française.
Voilà, on dramatise des deux côtés, mais
ça c'est normal. Elisabeth
Pinault, oui.
Oui, on s'approche de l'échéance. Tout le monde sait que rien n'est décidé à un mois et demi. À trois semaines, ça commence à devenir très important, et la dernière semaine, c'est crucial. Bon, les argumentaires ont changé, je trouve, depuis le début de la campagne. Au départ, Jordan Bardella, que j'ai pas mal suivi aussi, disait, voilà, ce sera un référendum sur l'immigration et sur le déclin de la France. Et puis en face, on avait le camp Macron qui disait, c'est l'Ukraine qui va donner le la de ces élections. Maintenant, on entend bien ce qu'a dit Gabriel Attal, qui rejoint ce que disait le président de la République dans la tribune le week-end dernier. Le Rassemblement National, c'est la sortie de l'Europe, la sortie de l'euro. Il ne veut plus le faire, mais au fond, ça revient à cela. Voilà. On voit un changement d'argumentaire. Et puis, chaque camp commence à aiguiser ses arguments. Mmh. On voit bien Raphaël Glucksmann qui parle beaucoup d'Europe, qui est assez crédible, qui porte les espoirs de la gauche, qui a beaucoup parlé lors de la visite de Xi Jinping au début de la semaine. Voilà, il a critiqué la réception que lui a faite Emmanuel Macron. On a aussi, bien sûr, Marion Maréchal qui joue le côté lutte contre l'islamisme. On a la France Insoumise qui, évidemment, essaie de mobiliser son électorat qui d'habitude est très abstentionniste et qui joue beaucoup sur ce qui se passe à Gaza. Voilà, chaque camp maintenant, on voit bien, aiguise ses arguments et ça va aller crescendo, je pense, d'ici le 9 juin.
Bon, Jeannick Halimi, je reviens vers vous après le point sur l'info, mais c'est intéressant de s'interroger sur l'efficacité de déplacer comme ça, je reviens aux déclarations de Gabriel Attal, mais de finalement installer un débat qui n'est peut-être pas le bon.
Je note dans ce que vous avez dit, enfin, vous avez donné les derniers sondages, ouais, que le grand discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne n'a pas fait bouger les lignes.
Les informés, Bérangère Bonte.
Elisabeth Pinault est là pour l'agence Reuters. Jeannick Halimi, l'éditorialiste politique. Benjamin Morel, politologue, maître de conférence en droit public à Paris 2, Panthéon Assas. Et Sylvain Kahn, enseignant-chercheur au Centre d'Histoire à Sciences Po. Alors, on revient à notre débat européen, finalement, de l'Italie aux européennes. Il n'y a qu'un pas. On parlera d'ailleurs de Giorgia Meloni dans un instant. Mais juste, Jeannick Halimi, sur cette stratégie de Gabriel Attal qui évoque l'hypothèse d'un Frexit dont on pensait qu'elle était plus dans le débat. Pourquoi il fait ça?
Mais oui,
qu'il prend pas un risque quand même?
Je sais même pas s'il pense prendre un risque. Je pense qu'il fait une erreur. On le dit tous et Sylvain Kahn le dit aussi. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que, et comme le dit Sylvain Kahn, qui a été d'ailleurs un des premiers experts à le souligner en France, le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est plus les Brexit ou les multiplications à venir des Brexit. C'est une transformation de l'intérieur de l'Europe à la façon hongroise de Viktor Orban, qui veut changer, qui est eurosceptique, qui veut changer les institutions européennes et changer les institutions de son pays. Et le danger, et c'est là pourquoi la stratégie d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal ne fait pas avancer Renaissance et la liste de Valéry Ayer d'une once, c'est parce qu'il se trompe. Le problème, je ne fais que répéter ce qui a été dit par mes collègues et par Sylvain Kahn, ce n'est pas être dehors ou être dedans, c'est être dedans, mais à la façon de Viktor Orban, c'est-à-dire en transformant une Europe vers une Europe illibérale, qui est quand même peut-être aussi le projet du Rassemblement National, Rassemblement National qui se trouve au sein du Parlement européen dans le même groupe que Viktor Orban, Sylvain, vous me corrigez si je dis une bêtise, qui est indépendance et idée et indépendance, bref, dans le même groupe.
Et démocratie.
Et démocratie, voilà, exactement. Et c'est là que le problème...
Ces groupes-là, il y a deux groupes.
Il y a deux groupes, il y a selon qu'on dise en anglais, il y a CER, où se trouve monsieur, madame Meloni et... Reconquête. Absolument. Et il y a l'autre groupe ID où se trouve donc notamment Viktor Orban et qui a été un temps écarté du groupe mais qui à l'origine était voilà
Sylvain
Kahn. Mais donc pardon, je termine. Le problème, la stratégie donc de Gabriel Attal n'est pas la bonne parce qu'encore une fois, il se trompe d'analyse de en tout cas à l'instant T, parce que je pense qu'il est totalement conscient du risque que porte Viktor Orban au sein de l'Union européenne, mais il se trompe en vouloir caricaturer la position de Marine Le Pen, qui en plus n'est plus celle de sortir, mais bien de rester et de transformer à l'intérieur l'Union européenne. Juste pour terminer, la stratégie en revanche de M. Bardella et de Marine Le Pen est la bonne. Pourquoi ? Parce que c'est pas tellement la souveraineté, ou c'est l'anti-Macron. Il l'a dit dès le début de la campagne, M. Bardella, Jordan Bardella, c'est de faire des campagnes des élections européennes un référendum anti-Macron. Et là... on peut penser ce qu'on veut d'Emmanuel Macron, mais il est là, il est au pouvoir depuis 7 ans. Il est la cible en plus de tous les autres partis en France. C'est plus simple et on prend pas de risque, en tout cas, de viser le bilan d'Emmanuel Macron. On en pense ce qu'on veut, mais évidemment qu'au bout de 7 ans, il a fait des erreurs, voire des fautes. Et là, la stratégie de Jordan Bardella est beaucoup plus payante que celle de, non pas de Gabriel Attal, mais de Valérie Ayer, qui n'a plus que, effectivement, possibilité pour rattraper un tout petit peu le retard, c'est que Gabriel Attal, qui a une notoriété, une popularité beaucoup plus forte que Valérie Ayer, bah, se lance véritablement pendant les 3 semaines ou un mois qui reste de la campagne.
On commence à entendre certaines voix, d'ailleurs depuis le début, qui considèrent que Gabriel Attal aurait dû porter la liste lui-même. C'est votre avis, Benjamin Morel ?
Oui, en grande partie, encore une fois. Il faut bien comprendre que...
Est-ce que ça aurait changé ?
Pourquoi est-ce qu'il a été nommé Gabriel Attal ? À l'origine, changer de Premier ministre à la charnière entre 2023 et 2024 n'est pas tout à fait évident, sauf si vous considérez qu'il ne faut surtout pas perdre les européennes. Parce que si vous perdez les européennes, on rentre dans les canards boiteux d'un point de vue politique. Mmh. Donc, on envoie un Premier ministre avec une majorité à l'époque cassée qu'on ne cherche pas à raccommoder. Hein. Souvenez-vous, pas de ministre de centre-gauche au sein du gouvernement.
C'est pas raccommodable, etc. Si, de toute façon.
On pouvait mettre plus de ministres de centre-gauche au sein du gouvernement et puis éviter d'aller chercher Rachida Dati, ce qui a fâché un peu plus les LR. Donc, on brise son sabre pour.
Rachida Dati, on n'entend pas d'ailleurs. Hein,
exactement.
Qui a oublié qu'elle était dans un gouvernement.
Et on envoie un pro de la com. Et ce pro de la com, il a pour but justement de mener campagne, que cette bataille soit menée. Or là, ce n'est pas vraiment le cas. Encore une fois, il faut comprendre quelque chose. Lors d'une élection européenne, il y a beaucoup d'abstention. Celui qui l'emporte n'est donc pas celui qui a le plus large électorat. Mmh. C'est celui qui arrive le mieux à mobiliser sa base électorale. L'avantage de Bardella, c'est qu'il arrive à mobiliser sa base électorale. La base électorale macroniste, elle, ne l'est pas. Donc, en effet, sur le fond, c'est absurde de dire le RN va lancer un Frexit. Néanmoins, si vous considérez qu'une partie de votre base électorale est âgée, si vous considérez que cette base électorale a peur d'un Frexit et que pendant des années, c'est l'un des points qui a fait que jamais elle n'aurait voulu voir le RN au pouvoir... Appuyez sur ce point, même si vous savez que c'est idiot, c'est l'espoir que cette base électorale se remobilise. Le problème, encore une fois, c'est que pour l'instant, ça marche pas. Et puis que surtout, cette base électorale a aussi changé. Quand vous prenez les enquêtes, aujourd'hui, le RN mord aussi sur l'électorat âgé.
Surtout, c'est faux. Encore une fois, le Rassemblement national ne prône plus la sortie de l'UE.
Sylvain Kahn, exercice difficile pour vous. Quand on dit la poussée probable des nationalistes et des populistes, comment on peut faire une photographie pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent il y a le journal Le Monde qui fait un passionnant tableau avec les 13 têtes d'affiche. Alors c'est plus facile, mais comment vous feriez cette photographie, vous, de cette poussée à quoi vous serez attentif et à quoi faut-il que nous soyons attentifs?
C'est une élection parlementaire. Hein. Donc là-dessus, mobilisons nos bonnes habitudes de citoyens, de commentateurs qui aimons la vie politique. Donc dans une élection parlementaire, ce qu'on regarde, c'est la famille politique dont vous parlez, qu'on va appeler l'extrême droite et la droite radicale. Combien elle occupe aujourd'hui de pourcentage de sièges dans le Parlement actuel ? 20%. D'après, enfin un tout petit peu moins de 20%. D'après les projections qu'on suit depuis maintenant plusieurs mois, il est probable, encore une fois, dans les projections, ça peut changer le jour du scrutin, que la famille des droites extrêmes et radicales atteigne 25% des sièges au mieux. Voilà. Donc on passerait de un cinquième à un quart. Donc ça, c'est le premier élément de réponse.
En additionnant les deux fameux groupes, on est d'accord.
En additionnant les deux fameux groupes. Mmh. Et justement, deuxième élément de réponse, les deux fameux groupes, donc je rappelle l'un qui s'appelle I et D pour Identité et démocratie, et l'autre qui s'appelle en français CRE pour Conservateurs et réformistes européens, ne s'entendent pas politiquement. Ils ont des valeurs communes, mais ils ont également des comportements et des traditions différents, notamment parce que le groupe IED, dans lequel il y a par exemple le Rassemblement national, ne travaille pas. Hein. Ça a été rappelé à plusieurs reprises dans tous les débats. Monsieur Bardella, par exemple, s'illustre par le fait qu'il est, c'est documenté par des statistiques, assez peu présent au Parlement européen.
Et voilà, fournit assez peu d'amendements, etc.
Voilà, tandis que les élus du groupe CRE, bon alors pour la France, il y en a très très peu, il y a juste un député Reconquête, sont au contraire des députés de droite radicale qui cherchent à s'insérer dans le travail parlementaire et à peser sur les textes. Bon, mais donc en tous les cas, quand je vous dis il passerait de 20% à 25%, sauf que de toute façon, il y a deux groupes qui sont à peu près d'un poids égal, et qui ne travaillent pas ensemble et ne s'entendent pas.
Additionner les deux n'a pas beaucoup de sens, c'est ça que vous voulez dire.
Ça a du sens pour dire, ou pour apprécier le fait que, en termes d'idéologie, on aurait une droitisation ou une extrême droitisation du Parlement européen, dans la limite d'un quart des sièges, mais ça n'aurait pas de sens par rapport à une future majorité parlementaire, si vous voulez. Voilà. Et donc, pour terminer, de toute façon, dans les projections actuelles, mais encore une fois, elles sont assez stables depuis plusieurs mois, puisque vous voyez bien, hein, pour que ça soit clair pour les auditeurs et les téléspectateurs, il faut agréger les sondages et les projections qu'on fait dans 27 pays. Hein. Donc, c'est pas très facile, mais il y a des sites qui font ça très très bien, comme Europe Elect. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est très probable que la majorité parlementaire, hein, pour faire voter des textes, hein, ça soit à nouveau dans le futur Parlement comme dans le Parlement actuel, la droite parlementaire classique, démocrate chrétienne, conservatrice, qu'on appelle le PPE, Parti populaire européen, le Parti socialiste européen, plus les centristes libéraux de type Renew. Voilà, donc les grands équilibres, si vous voulez, ne vont pas fondamentalement changer.
La fusion des deux groupes, donc de nationalistes, on va dire d'extrême droite, ne se fera pas, mais c'est vrai que ce bloc, s'il augmente, peut changer la donne sur pas mal de textes.
En fait, oui, absolument, ça peut empêcher le vote de certains textes. Bon, cette fusion a été envisagée longtemps, mais ça semble impossible aujourd'hui, notamment parce que Giorgia Meloni, qui veut être la chef de la droite conservatrice en Europe, ce n'est pas dans son intérêt, elle veut être la personne importante. Et donc voilà, il faut penser plus large, il ne faut pas penser seulement France, référendum anti-Macron, enfin pour ou contre Emmanuel Macron, c'est bien sûr au niveau européen, au niveau de ces groupes européens, que tout va se jouer.
Benjamin Morel.
Oui, alors d'un point de vue institutionnel, je rappelle que le monopole législatif dans l'Union européenne, c'est la Commission. Hein, et que la Commission va quand même beaucoup dépendre de ce que voudront les chefs d'État et de gouvernement, même s'il y a une validation par le Parlement européen. Qu'ensuite, la Commission a quasiment un droit de veto sur les amendements qui sont soumis au Parlement européen.
Mais la Commission elle-même dépendra aussi de ce qui sera discuté.
Elle est soutenue, il faut qu'il y ait un vote au Parlement européen sur les commissaires. Ensuite, il y a certes le Parlement européen, dans lequel, là je suis d'accord avec ce qui a été dit, il n'y a pas vraiment de majorité alternative à celle qui existe aujourd'hui, mais il peut quand même y avoir des basculements, c'est-à-dire qu'on peut avoir des alliances sur certains textes, notamment avec le CR, et là, entre le PPE, etc., il peut y avoir des variations, mais ensuite, il faut l'aval du Conseil, hein, c'est-à-dire là où siègent les ministres. Et ce conseil a une influence extrêmement importante. Donc, il faut bien comprendre, et c'est toute la difficulté, on parlait tout à l'heure de mobilisation, mais c'est toute la difficulté, entre guillemets, de faire le lien entre des enjeux de l'élection qui sont à la fois transnationaux et limités à l'une des institutions européennes qui n'est pas la plus forte, et de l'autre, eh bien, faire campagne sur des sujets politiques très concernants, ce qui est un enfer pour les partis.
Mais c'est là où les uns et les autres jouent un jeu dangereux en nationalisant le scrutin, parce que certes, c'est compliqué, mais sans doute qu'il faut s'atteler à cette complexité.
On espère que ça va, on va parler d'Europe pendant les quatre semaines qui restent.
Je suis pas sûre que ce soit un jeu dangereux. Pourquoi? Moi, je connais plus le Rassemblement National que les autres partis comparables dans les autres pays européens. Encore une fois, c'est un jeu dangereux si la stratégie de nationaliser, en l'occurrence pour Jordan Bardella, de tirer à vue sur Emmanuel Macron et son bilan, était une stratégie qui le poussait à l'échec. C'est pas le cas. Je pense que c'est la bonne stratégie. Donc, s'il y a un risque, évidemment, il y a toujours un risque, il est limité. De toute façon, on ne va pas le voir dégringoler, sauf extraordinaire et coup de théâtre historique. Même si M. Attal arrive à grappiller quelques points, le Rassemblement National restera autour, on va dire, de 30%. Il va remporter l'élection en France, avec peut-être d'autres conséquences sur les élections à venir dans les deux ou trois années qui viennent. Mais juste quand même, je voulais dire quelque chose très vite sur l'Europe. Je ne pense pas que ce soit ça que voulait dire Sylvain Kahn, mais je veux dire par là que cette poussée de la droite et de l'extrême droite ou des droites extrêmes au Parlement, bien sûr qu'il n'y aura pas de basculement, enfin encore une fois, sauf coup de théâtre pour le coup. Les partis d'extrême droite, que ce soit la CRE et l'ID, même s'ils fusionnaient, ne vont pas entraîner un basculement, un changement de couleur de l'Assemblée, du Parlement européen. Mais il faut bien voir, en revanche, que la droitisation donne énormément d'espoir au PPE, mais que le PPE va avoir quand même de plus en plus de mal à avoir une majorité qui lui permette de faire passer des textes rien qu'avec eux ou avec le groupe pivot que représente aujourd'hui Renaissance et donc Renew. Je veux dire par là que s'il y a un PPE qui a quand même la majorité relative, mais avec des partis d'extrême droite qui montent, eh bien, la couleur du Parlement, et pas seulement sur des textes touchant l'immigration ou la sécurité, le PPE va devoir s'appuyer de plus en plus sur ces partis d'extrême droite. Et croyez-moi, l'Union européenne ne sera plus l'Union européenne qu'on a connue depuis sa création et depuis l'élection du Parlement européen. Juste un dernier point, vous parliez, Benjamin Morel, de la Commission. Oui, c'est vrai, mais la Commission, qui a un rôle en soi, et je ne parle même pas du Conseil, la Commission, on voit Mme von der Leyen qui est en course pour également ce poste de commissaire.
La course qui est plus gagnée, contrairement à ce qu'on a...
On ne sait pas, voilà. Mais en tout cas, elle s'est déjà appuyée et elle a déjà tendu la main au parti de Mme Meollier, à la CRE, pour faire passer certains textes, notamment, je ne crois pas me tromper, le pacte, sous réserve, mais le pacte écologie. Donc on voit déjà des figures du PPE, et pas n'importe lesquelles, puisque c'est quand même la commissaire, qui commence à tendre la main à un parti, au groupe d'extrême droite du Parlement européen. Donc attention, l'élection qui vient, que ce soit au plan national avec ses conséquences au plan européen, est extrêmement importante parce qu'il va avoir un rôle de plus en plus central, certes pas majoritaire, mais un rôle pivot et central des groupes d'extrême droite au sein de l'Union européenne. D'extrême droite au sein de l'Union européenne.
Juste pour clore notre grande page européenne, et on y reviendra évidemment, mais Sylvain Kahn, quand Jannick Halimi parle vous parlez du Green Deal, ça fait partie des enjeux, c'est-à-dire des textes qui peuvent être remis en question selon le résultat du scrutin du 9 juin.
Mais il l'est déjà. Le Green Deal, un des gros enjeux effectivement du futur Parlement européen, c'est le Green Deal stop ou encore. Parce que, en effet, depuis plusieurs mois, le PPE, donc qui correspond à LR pour la France, a levé le pied, voire mis le pied sur le frein du pacte vert dans l'Assemblée de Strasbourg et de Bruxelles. Parce que, mais ça, c'est pas tant parce que la droite radicale est extrême monde que parce que il y a eu un grand mouvement social des agriculteurs. Mais je voudrais dire, par rapport à tout ce qui a été dit, juste, je suis complètement d'accord, mais nuancer un tout petit peu. C'est-à-dire que si vous additionnez le nombre de sièges du PPE et du groupe Meloni, c'est-à-dire ECR, et probablement qui va être rejoint par Orban, le Fidesz, vous êtes très très loin d'avoir 50% des sièges. C'est-à-dire que, encore une fois, il n'y a pas de majorité alternative pour voter des textes à une alliance droite, plus gauche, plus centre, c'est-à-dire quelque chose qui... Donc, à mon avis, le risque le plus important, puisque là, c'est un peu ce qu'on cherche à faire, c'est que sur certains textes, effectivement, il y a une droitisation de leur rédaction, mais que sur beaucoup d'autres textes, il n'y ait pas de majorité de compromis possible. Donc, on irait plutôt, à mon avis, vers une absence de prise de décision du Parlement européen que vers, disons, une majorité alternative. Mais encore une fois, c'est un risque qui est, comment dire, un peu limité. Quant à la Commission, il faut bien voir que c'est tout à fait juste ce qui a été dit tout à l'heure, que la Commission va avoir un rôle éminent.
Vraiment d'un mot.
Et que donc d'un mot, c'est chaque gouvernement qui nomme un commissaire. Et celui-ci doit ensuite être validé par le Parlement européen. Et donc, dans l'état actuel des choses, il y a peu de gouvernements dans l'état actuel des choses où la droite radicale et extrême dirige le gouvernement.
Merci
donc,
beaucoup.
On va avoir une commission un peu plus droitisée, mais pas énormément.